Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Bank Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Bank vous accompagne. Sounou Bank, avec vous à chaque étape.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Priorité Santé vous propose chaque jour d'en savoir plus, de comprendre une pathologie, un défi sanitaire, de répondre à vos questions. Mais vous le savez, ces derniers jours, l'actualité sanitaire et l'actualité tout court se retrouvent bouleversées par les conséquences de la pandémie de Covid-19. Une crise qui, plus que n'importe quel problème de santé, est en train de bouleverser notre quotidien à l'échelle planétaire. Désormais, le mot d'ordre est clair, restez chez vous. Et depuis ce matin en France, toute personne qui circule devra être en mesure de justifier son déplacement, porteur d'une attestation pour un nombre limité de motifs de sortie impérieuse. Les 27 membres de l'Union européenne ont d'ailleurs adopté le contrôle aux frontières de l'UE et au moment où nous parlons, les différents pays de la planète, les différentes populations ne sont pas affectées bien sûr dans les mêmes proportions à la même mesure. Parti de Chine, en passant par la Corée, l'Iran, l'Italie, le virus s'est essaimé, propagé, devenant pandémie mondiale. Les pays du continent africain prennent à leur tour des mesures. Écoles fermées au Sénégal, au Rwanda, en Éthiopie. L'épicentre de l'épidémie s'est déplacé jusqu'en Europe, poussant donc hier soir, comme vous l'entendez dans nos différents journaux, depuis le président de la République française a encore intensifié le confinement de la population. Des mesures inédites donc pour imposer des comportements que la population française n'avait pas forcément suivis. Limiter au maximum les contacts pour éviter ce que le corps médical redoute, une flambée incontrôlable assortie d'une tension, d'un risque de saturation des services de réanimation dans les hôpitaux. C'est bien cela qu'il s'agit aujourd'hui d'éviter au maximum. Faire face à l'épidémie de coronavirus, comment protéger, limiter la transmission, comment améliorer la riposte actuelle, qui sont les populations vulnérables, c'est notre sujet du jour. Question que nous allons poser à nos invités. Deux infectiologues avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, professeur François Bricaire, bonjour.
Bonjour madame.
Infectiologue et membre de l'Académie de médecine. Tout à l'heure, nous retrouverons en ligne le professeur Olivier Bouchot, responsable du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU Avicenne à Bobigny en région parisienne. Prévention, transmission, prise en charge, population vulnérable. Comment le monde hospitalier fait-il face? Quelle réponse aux questions concrètes des patients? On va donner la parole au professeur Francis Berenbaum, chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Mesures de confinement spécifiques pour les personnes âgées. On va retrouver en ligne le docteur Frédéric Béard, gériatre nutritionniste. Quels risques? Quelles mesures de prévention pour les personnes atteintes de diabète? On va retrouver Stéphane Besançon, directeur de l'ONG Santé Diabète à Bamako, au Mali. Et en matière de santé cardiaque, nous demanderons son éclairage au professeur Jean-Noël Fabiani, chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris.
Priorité santé sur RFI.
Situation évolutive en France comme dans le monde, avec des consignes officielles qui, elles aussi, évoluent au fil des heures, des jours, comme en témoigne la montée en puissance des restrictions de circulation en France. Jeudi soir, l'annonce de la fermeture des établissements scolaires par Emmanuel Macron. Toutes les écoles, d'ailleurs, sont restées fermées hier lundi. Samedi soir, le Premier ministre annonce la fermeture des bars, restaurants, des lieux publics. Et hier soir, nouvelle prise de parole du président de la République. La France passe à une stricte limitation des déplacements. Emmanuel Macron parle d'une guerre contre le coronavirus. Professeur François Bricaire, comment l'infectiologue que vous êtes perçoit-il ces dernières mesures?
Écoutez, je pense que ce sont des bonnes mesures que de vouloir faire en sorte qu'on freine l'extension du phénomène épidémique en prenant d'abord et en insistant sur les mesures barrières, et puisque malheureusement ça ne suffit pas, d'élargir à des propositions de confinement. Il est important, effectivement, qu'on diminue le nombre de sujets concernés pour essayer de réduire au maximum les quelques formes sévères qui peuvent survenir et qui vont aller vers les secteurs hospitaliers. Si on veut éviter l'engorgement des services de soins intensifs, même si ceux-ci peuvent répondre dans des conditions encore favorables, il est important qu'on ne sature pas et donc qu'on réduise le nombre de gens concernés par la maladie elle-même.
Alors on le comprend bien, ces mesures de télétravail, fermeture scolaire sont de nature à retarder le pic de l'épidémie. Des chercheurs travaillent sur ces questions, ils font des projections justement sur la complexité des mesures d'endiguement de plus en plus sévères. Professeur Bricaire, c'est très important justement de contrôler ce pic épidémique.
Alors oui. Mais il faut savoir que si on essaie de contrôler au maximum ce pic épidémique, on ne l'évitera pas. Et je dirais même que dans une certaine mesure, il est souhaitable qu'on aille vers ce pic épidémique de façon assez rapide pour pouvoir ensuite entrer dans la phase de défervescence. Donc autrement dit, d'avoir quand même, et qu'elle veuille ou non, un nombre suffisant de personnes qui ont été contaminées pour que la population se protège. En d'autres termes, et c'est ça que je voudrais souligner, c'est qu'à côté des personnes qui seront malades, il y a énormément de personnes qui sont porteuses du virus, qui vont faire des formes ou qu'on dit asymptomatiques, c'est-à-dire sans troubles, ou avec très peu de manifestations, mais qui vont faire en sorte de guérir très vite, d'avoir des anticorps, et d'aller dans ce sens de la protection générale de la population.
Alors, il y a des questions des auditeurs, hein. Il y en aura au cours de cette émission. À Abidjan, Morel demande, et je vous pose la question, professeur Bricaire, une personne nouvellement contaminée qui ne présente pas encore de symptômes, est-ce que cette personne est contagieuse?
Alors, elle peut être contagieuse, c'est une très bonne question, parce qu'on ne sait pas exactement encore, et il faut insister sur le fait qu'on ne connaît pas tout loin de là sur ce virus. Il est sans doute transmissible quelques jours avant d'avoir des symptômes. Alors, combien de jours? Il y a des gens qui ont dit initialement que c'était de l'ordre de 24 heures, peut-être 48 heures. Il y a des travaux plus récents qui laissent supposer que ça pourrait être un peu avant. Ce qui veut dire en tout cas que cette transmission avant les symptômes chez des sujets qui viennent d'être contaminés explique peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui sont porteurs du virus, et ce qui en soi n'est pas très, ce qui est pas grave par définition, mais qui aggrave le phénomène épidémique et l'importance du nombre de sujets concernés.
Alors vous restez avec nous en ligne si vous le voulez bien, professeur François Bricaire. On va maintenant nous intéresser à celles et ceux que l'on désigne depuis le début de cette épidémie comme les populations vulnérables, protéger les plus fragiles face au coronavirus, des consignes en particulier pour les personnes de plus de 70 ans. Une étude de chercheurs chinois qui a été publiée le mois dernier dans la revue médicale JAMA rapporte que pour les plus de 80 ans, la mortalité s'élèverait à près de 15%, ce qui est évidemment excessivement élevé si on compare au 0,2% seulement dans cette même étude pour la tranche des 30-39 ans. Docteur Frédéric Béard, bonjour.
Bonjour Madame Paris.
Vous êtes gériatre, nutritionniste, également chef de service à l'hôpital Dupuytren, unité de soins de suite réadaptation, soins de longue durée, soins palliatifs. Donc, le cas des personnes âgées, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Il y a une question concrète d'un auditeur de Kinshasa. C'est Christian, il demande, je vous pose la question, quelle classe d'âge est la plus exposée au coronavirus, je pense, plus exposée aux complications?
Alors, a priori, ce qu'on sait depuis le début, c'est que les personnes âgées, effectivement, ont été les plus vulnérables au début de l'épidémie. Visiblement, la tranche d'âge commence à avancer un petit peu et on dit que maintenant, les personnes entre 30, 40, 50 ans peuvent être également infectées. En fait, sur place, nous, dans nos services de gériatrie et pour l'instant, il y a, à mon avis, deux phases. La première phase, c'est d'abord de préserver nos patients hospitalisés du contact avec le virus pour qu'il ne soit pas infecté, d'où les mesures de confinement extrêmement importantes puisqu'on a refusé toutes les visites extérieures et qu'il n'y a plus aucun passage entre l'extérieur de l'hôpital et l'intérieur de l'hôpital, mis à part pour les personnels soignants. Donc ça, c'est la première phase, c'est d'éviter que nos patients âgés contactent le virus et soient infectés. Ça, c'est de la prévention. Et la deuxième phase, c'est pas encore maintenant, puisque nous, on est surtout soins de suite et de réadaptation. Je pense que dans un mois, deux mois, on va avoir des cas de patients qui auront passé pas mal de temps en réanimation et que nous aurons ensuite dans nos services et que nous allons être obligés de réadapter après 15 jours, 3 semaines de réanimation.
On va dire des personnes guéries, mais qui ont des voilà, suites d'hospitalisation.
Exactement, et qui vont avoir toutes les complications d'un séjour de un mois en réanimation sous assistance respiratoire et qu'on va être obligé, nous, ensuite, de réadapter avec les contraintes qui sont liées à leur âge, qui sont liées à leur comorbidité, leur pathologie difficile, etc.
Alors, dès le début, excusez-moi, docteur Béard, il y a eu des consignes pour demander à ces personnes de rester autant que possible à leur domicile, limiter les contacts. Vous l'avez dit, sortie et visite dans les EHPAD et les services de gériatrie qui sont désormais interdite. Pourtant, on sait qu'en France, eh bien, le nombre de personnes qui sont en établissement, c'est très important. 10% des 75 ans et plus, un tiers des 90 ans et plus. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'impression que la population s'inquiète particulièrement pour ses aînés ?
Oui, bien sûr, c'est bien normal d'ailleurs, parce qu'on a tous des parents et des connaissances qui sont un peu plus âgés, et on est très inquiets effectivement pour eux. Alors le problème que ça pose, c'est ce confinement et cette interdiction des visites, bien évidemment, c'est dans un contexte compliqué, puisqu'on ne peut pas avoir de contact physique, et donc, bien évidemment, c'est des consignes qu'il faut impérativement respecter. J'appelle tout le monde, tous les auditeurs, à effectivement respecter ces interdictions, à comprendre qu'on interdise le contact avec les personnes âgées, même si c'est compliqué. Mais par contre, il faut aussi bien comprendre que le contact est obligatoire par téléphone. On peut prendre des nouvelles par téléphone, on peut appeler, même si effectivement, alors il y a plusieurs écueils, parce que les personnes âgées, quand elles voient le téléphone sonner, elles n'ont pas forcément le réflexe de décrocher, ou alors elles sont en kiné, ou alors elles sont en train de manger, et donc elles ne sont pas à côté de leur téléphone. C'est très anxiogène pour les familles d'appeler et de ne pas pouvoir joindre leurs proches.
Donc peut-être de fixer des rendez-vous. Comme ça, on s'inquiète
moins. Voilà, exactement. Appeler l'équipe. Alors, il y a aussi un conseil, c'est pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Les soignants, ils appellent toujours en cas d'aggravation, en cas de problème. Donc, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Soyez un peu rassurés. On appelle toujours quand les problèmes sont là et quand les gens vont pas bien. Mais sinon, vous pouvez effectivement appeler l'équipe, mais respectez les consignes. Ne venez pas voir des personnes âgées, même si, effectivement, c'est compliqué et c'est difficile. Et que pour les patients âgés eux-mêmes, il y a un sentiment d'isolement et un peu de difficulté qui est heureusement compensée par l'équipe, mais enfin le côté affectif de la famille est extrêmement important.
Oui, prendre dans ses bras aussi, ça fait du bien, mais en tout cas, on pense à téléphoner. De toute façon, cette question est suffisamment importante que nous avons décidé d'y consacrer une émission spécifiquement la semaine prochaine dans Priorité Santé. On vous remercie beaucoup, docteur Frédéric Béard, d'avoir répondu à ces questions. Je rappelle que vous êtes gériatre et nutritionniste. On vous retrouve, professeur François Bricaire, infectiologue. On voit bien, justement, cette double dimension de cette épidémie, dimension non seulement sanitaire mais aussi sociétale, l'organisation de la cité, les relations aux autres et puis cette capacité de prendre soin des personnes vulnérables. Emmanuel Macron disait hier dans son allocution solennelle « organiser de nouvelles solidarités ».
Oui, tout à fait, ça me paraît tout à fait essentiel. L'aspect sociétal, on le voit bien, et ça ne fera que s'accentuer avec l'évolution de ce phénomène épidémique, c'est fondamental. Et je pense que c'est riche d'instructions et qu'il faudra aussi savoir en tirer des bénéfices pour le futur.
Alors, vous qui avez de l'expérience, une longue expérience, professeur François Bricaire, puisque vous avez été chef de service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, est-ce qu'on parle aujourd'hui de la fin d'une certaine insouciance ? On était pétri de certitude par rapport au progrès scientifique. Est-ce qu'aujourd'hui, on n'est pas rentré dans une phase d'incertitude, y compris pour des infectiologues de haut niveau, comme on en a dans de très nombreux pays du monde, et pas simplement en France ou en Europe, mais vraiment partout dans le monde ? Est-ce qu'aujourd'hui, on regarde les choses différemment quand on est scientifique et citoyen ?
Alors écoutez, je pense que vous avez tout à fait raison et que cette prise de conscience est quelque chose de très important. Alors je dois dire tout de même que en maladie infectieuse, mes élèves le savent bien parce que j'aimais bien le répéter, en maladie infectieuse on se trompe souvent Et je crois que là, on est en train de le vérifier, même à travers les essais de certitude qu'on essaie d'avoir, on se rend bien compte de tous les points d'interrogation que l'on a, et donc des mauvaises réponses éventuellement que l'on peut apporter. Et il faut être extrêmement modeste. Et c'est vrai en médecine, je le dis aussi souvent, la médecine, même si elle se veut scientifique, reste un art, et donc avec un coefficient d'incertitude. Donc c'est bien qu'on s'en rende compte, parce que on est effectivement dans une société qui veut toujours plus avoir raison,
et tout de suite.
Un bon objectif,
et tout de suite.
Et malheureusement, je crois que ça n'est pas possible, et en tous les cas, ça n'est sûrement pas toujours possible.
S'autoriser le doute et prendre du recul aussi. On vous remercie beaucoup, professeur François Bricker, infectiologue et membre de l'Académie de médecine.
RFI.
Sortie strictement limitée, on parle de quarantaine dans certains pays, bouleversement pour la vie quotidienne, donc cette irruption de l'imprévisible dans notre quotidien. On continue de parler des gestes, des conseils à mettre en œuvre pour faire face au coronavirus. Beaucoup de questions aussi de nos auditeurs sur la maladie. Et on vous retrouve à présent, professeur Olivier Bouchaud, bonjour.
Bonjour.
Responsable du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU Avicenne de Bobigny en région parisienne. On va retrouver dans quelques instants le Mali avec Stéphane Besançon. On parlera des risques spécifiques pour les patients diabétiques face à ce risque infectieux. Mais tout d'abord, si vous le voulez bien, réponse d'un infectiologue, professeur Bouchaud, à nos auditeurs. Première question, c'est Ahmed de Ouagadougou qui demande « Est-ce que les fumeurs sont plus fragiles face au coronavirus ?»
Alors la réponse est oui, pour une raison assez simple, c'est que quand on est fumeur, et a fortiori quand on fume beaucoup, la muqueuse des bronches, donc la surface des bronches et globalement du poumon, est inflammatoire en permanence, et que cette inflammation fragilise la réponse naturelle de lutte contre l'arrivée d'un microbe, et que donc un fumeur a un petit peu plus de chances probablement d'être infecté et surtout de faire une forme plus grave.
Alors toujours au sujet des vulnérabilités particulières et en matière respiratoire là encore, professeur Bouchaud, question de Steven, est-ce que les asthmatiques sont plus vulnérables ?
Alors c'est difficile de répondre de façon certaine. Tout à l'heure, François Bricker a dit qu'il fallait
laisser la place au doute,
des certitudes. Mm-hmm. Et François a dit que la médecine était l'art du doute, était un art. Et moi, je dis que la médecine, c'est aussi l'art de gérer le doute. Mm-hmm. Donc je ne peux pas vous répondre de façon complètement carrée à cette question. Le bon sens veut que quelqu'un qui est asthmatique et qui déclencherait une crise d'asthme à l'occasion d'une infection pulmonaire ou bronchique par le coronavirus, va forcément aggraver un petit peu la situation. Mais à ma connaissance, on n'a pas de raison de penser que le seul fait d'être asthmatique vous rend plus susceptible à l'infection.
Il y a aussi une capacité de nos auditeurs et de la population en général à accepter ce doute et ne pas, du coup, aller chercher des réponses qui sont fausses. Hein. Plus que jamais, on parle des fake news, de la lutte contre les fake news. Et cette interrogation, là encore, question que je vous pose, professeur Bouchaud, sur la résistance du nouveau coronavirus, question de Jeanne. Et on retrouve beaucoup ces questions de la part de nos auditeurs africains sur le climat, sur la chaleur. Le Covid survit-il à des températures extérieures au-delà de 20 degrés ?
Bah écoutez, là encore une fois, le bon sens peut permettre d'apporter la réponse, puisque le Covid se complaît manifestement dans l'organisme humain qui, de façon habituelle, est autour de 37 degrés. Manifestement, les températures supérieures à 20 degrés lui conviennent parfaitement bien. Et même quand on monte jusqu'à 39-40, ça n'a pas l'air de le bouleverser beaucoup.
Sinon, donc, ce serait une bonne nouvelle parce qu'il disparaîtrait avec la fièvre. Donc, ce n'est pas le cas du tout.
Eh bien, voilà. Ce qui fait que ce qu'on entend effectivement dire qu'il faut boire des boissons chaudes pour lutter contre le coronavirus n'a pas de sens d'un point de vue virologique. Après, boire régulièrement, c'est très bien, mais je voudrais pas que certains l'entendent comme il faut que je boive régulièrement des boissons brûlantes pour me désinfecter du virus, parce que si c'est le cas, des gens qui pourraient mal comprendre cette consigne fausse vont se brûler la gorge et là encore une fois vont au contraire fragiliser leurs muqueuses et leurs défenses naturelles et être plus susceptibles à une infection. Donc encore une fois du bon sens, le virus supporte très bien des températures, notamment la température physiologique humaine aux alentours de 37 degrés.
Alors dans quelques instants, professeur Bouchot, on va évoquer la prise en charge, situation à laquelle fait face un hôpital comme le vôtre. Vous restez donc en ligne si vous le voulez bien. Autre vulnérabilité, on parle maintenant des personnes atteintes de diabète avec en ligne de Bamako, Stéphane Besançon, bonjour.
Bonjour Caroline.
Stéphane, directeur de Santé Diabète à Bamako au Mali. Les auditeurs vous retrouvent le lundi dans notre émission. Plusieurs pays africains ont décidé de fermer leurs frontières. La pandémie touche une trentaine de pays du continent, hein, bien sûr, mais dans des proportions beaucoup moindres de ce que l'on vit en ce moment en France, en Italie ou en Espagne. Contamination beaucoup moins massive qu'en Asie et en Europe. Beaucoup de cas importés, répertoriés officiellement. Jusqu'à présent, tout d'abord, Stéphane, peut-être votre impression sur la perception de ce qui se passe en ce moment, vu de Bamako.
Mais du coup, de Bamako, c'est un peu paradoxal, car on suit ce qui se passe à la fois en Europe, aux États-Unis et dans les pays voisins qui sont touchés. Il y a beaucoup de craintes, beaucoup de craintes, mais pour le moment, il n'y a pas encore de cas positifs qui ont été testés. Donc, on attend avec beaucoup d'appréhension. Donc, c'est un peu anxiogène parce qu'on voit ce qui se passe autour, beaucoup de pression, mais pour le moment, pas encore de cas. Donc, la chance de ne pas être touché. Donc, un entre-deux un peu paradoxal.
Est-ce que vous constatez que les gens, hein, Stéphane Besançon, les Bamakois, se posent beaucoup de questions? On a déjà parlé depuis le début de cette émission des rumeurs, des fake news. Ça circule aussi à Bamako?
Oui, et puis en plus, faut pas oublier que le Mali, comme la Guinée, a été touché par l'épidémie d'Ebola il n'y a pas très très longtemps, donc les gens sont quand même très inquiets. Et une des grosses questions et qui inquiète beaucoup les gens, en plus des rumeurs qui peuvent circuler, c'est aussi de voir un pays comme la France avec un système de santé très très structuré, qui se trouve un peu débordé, et de se dire, nous, notre système de santé est un peu plus faible, qu'est-ce qui va se passer si l'épidémie démarre et démarre très fort? Donc il y a beaucoup d'anxiété autour de ce point-là. Alors la chose un peu rassurante quand même, c'est qu'au Mali, là, cette fois, l'expérience d'Ebola et tout ça a fait que le ministre de la Santé, Michel Sidibé, a pris les choses très tôt avec d'excellentes mesures de prévention. Et pour le moment, on est épargné. Alors bien sûr, on sait qu'on ne va pas être épargné tout le temps, puisqu'il y a une circulation, mais pour le moment, le gouvernement a très bien réagi, donc on espère que ça va continuer.
Et d'ailleurs, nous devrions avoir le ministre malien de la Santé, Michel Sidibé, demain en direct dans notre émission. Et on comprend d'ailleurs que l'Organisation mondiale de la Santé se soit, dès les débuts de l'épidémie, inquiétée particulièrement pour les pays les plus vulnérables en termes d'accès aux soins et de solidité des systèmes de santé. Alors, les autorités sanitaires et politiques, depuis le début, citent les patients dits les plus vulnérables et ont cité le diabète comme critère de fragilité face au Covid-19. Stéphane Besançon, est-ce qu'il y a par exemple plus de risques que pour une autre infection, pour une personne touchée par le diabète, une infection comme la grippe par exemple?
Alors en fait, je pense qu'il faut discerner deux choses, les risques de contraction du virus et les risques si on est diabétique et qu'on est infecté. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont circulé sur les risques de contraction en disant que les personnes atteintes de diabète pouvaient avoir un système immunitaire un peu plus affaibli et qui contractaient plus le virus. Or aujourd'hui, tous les travaux qui ont été publiés montrent que les diabétiques ne sont pas plus infectés que le reste de la population. Mmh. Bien sûr, quand on parle d'un diabète qui est équilibré et pas avec des comorbidités et des complications. C'est pour ça d'ailleurs qu'en France, si vous prenez la recommandation, c'est que les personnes à risque, c'est des personnes atteintes de diabète insulino-dépendant, non équilibrées ou présentant des complications secondaires. Donc ce n'est pas tous les patients, mmh. Il ne faut pas inquiéter tout le monde, c'est vraiment un type de patient. Maintenant, par contre, là où il y a un risque, c'est lors de l'infection, parce que le diabète, comme dans toutes sortes d'infections, il va avoir tendance à se déséquilibrer, à avoir des complications. Donc c'est là où il faut être très vigilant. Très vigilant, et c'est là où on peut être justement un peu plus inquiet pour l'Afrique d'ailleurs, parce qu'on a beaucoup de patients qui sont moins bien suivis avec des diabètes plus déséquilibrés, et là il risque d'y avoir du danger. Il faut vraiment mettre le focus là sur ces patients-là pour leur dire attention en cas d'infection, là il y a un risque qui est important, il faut bien prendre en charge les choses.
Alors justement, du côté des conseils concrets, recommandations particulières, Stéphane, pour ces patients diabétiques?
Il est vraiment très important que les patients ils suivent très bien leur traitement, qu'ils aient un diabète qui soit le mieux équilibré possible, déjà en pleine épidémie, pour s'ils sont, j'allais dire, infectés, ils soient déjà le mieux possible dans leur maladie. Et après, il faut vraiment qu'ils aient le matériel de surveillance, les lecteurs de glycémie pour mesurer le taux de sucre dans le sang et tout ce qu'il faut pour pouvoir suivre et alerter son médecin avec un contact vraiment très proche avec le médecin. Alors, quand je dis proche, on est en pleine épidémie avec un virus, donc pas proche justement physiquement, mais de mettre en place avec le médecin, est-ce que c'est WhatsApp, est-ce que c'est par SMS, est-ce que c'est par téléphone, ou avec les professionnels de santé.
On garde le contact sans se toucher.
Voilà, c'est très très important pour pouvoir dire ma glycémie évolue comme ça, puisqu'on sait qu'en cas d'infection, la glycémie va évoluer fortement. Donc il faut être en capacité d'échanger, de dire qu'est-ce que je fais, de prendre les mesures qu'il faut attendre. Donc ça, c'est très très important. Et pour l'Afrique aussi, d'être un peu innovant, ça veut dire il n'y a pas de téléconsultation peu, donc ça veut dire peut-être utiliser plus WhatsApp, les médias sociaux, j'ai aucune idée comme ça, mais ça, les gens vont devoir être innovants pour pouvoir garder un contact sans se ruer dans les structures de santé et engorger les structures de santé où on sait qu'en plus, il y a des risques de contamination supplémentaires.
Merci beaucoup Stéphane Besançon, merci d'avoir été en ligne avec nous de Bamako au Mali et à bientôt dans Priorité Santé.
RFI à Bamako, 98.5 FM.
On vous retrouve, professeur Olivier Bouchot, merci d'être resté avec nous. Infectiologue, situation bien différente aujourd'hui en Afrique de l'Ouest par rapport à ce que connaissent de nombreux pays européens, Italie, Espagne et France. Pour décrire ce qui se passe ici, comment ça se passe chez vous dans un établissement hospitalier comme le vôtre, qui est donc situé en Seine-Saint-Denis, professeur Bouchot?
Alors, si vous me permettez, juste avant de répondre à votre question, je voudrais juste que nos collègues en Afrique prennent bien conscience que c'est pas parce qu'ils voient peu de choses autour d'eux qu'il se passe rien. Mmh. Et je pense qu'on s'est tous fait piéger en Italie et comme un petit peu en France sur le fait qu'on nous annonçait un nombre de cas confirmés qui au début paraissait assez limité et puis ensuite un petit peu enflé, mais alors que la réalité était que le virus circulait déjà beaucoup plus et qu'il y avait beaucoup plus de personnes infectées que celles qui étaient annoncées. Et donc je pense que vraiment nos collègues africains, parce que je vois pas pourquoi l'Afrique échapperait à une épidémie d'ampleur. Et si c'est le cas, tant mieux, mais il faut s'y préparer. Il faut que dès maintenant, ils mettent en place les mesures pour limiter la transmission du virus et ne pas attendre que
le virus soit là.
C'est évident qu'il y a un vrai signal. Alors, pour répondre à votre question, nous, on a une petite chance par rapport aux Italiens, c'est que on va être un petit peu moins surpris, même si on l'est quand même. Et dans mon hôpital, mais je sais que c'est à peu près la même chose dans les autres hôpitaux dans la mesure de ce qui est possible, on a mis en place dès maintenant une anticipation de capacité d'absorption pour les patients qui n'ont pas besoin de réanimation. Pour vous donner un exemple, dans mon service où il y a 22 lits, les 22 lits sont actuellement occupés par des patients qui sont infectés par le coronavirus. Et demain, on va ouvrir une deuxième unité de 32 lits et on a prévu, si besoin, dans quelques jours ou la semaine prochaine, d'ouvrir une deuxième unité de 32 lits. Et ça, il faut l'anticiper dès maintenant. Et comme je dis souvent à mes collègues, il vaut mieux qu'on ait 20 lits vides en attendant qu'ils se remplissent plutôt qu'on soit obligé de vider en urgence un service pour le remplir de patients infectés par le coronavirus dans la précipitation et dans le stress pour tout le monde.
Donc là, pour l'instant, vous gérez alors qu'il y a une certaine saturation dans certaines régions déjà en France, comme dans le Grand Est. Emmanuel Macron a annoncé hier encore dans son allocution déployer dans les jours à venir en Alsace un hôpital de campagne du service de santé des armées. Objectif, réduire la congestion des hôpitaux de certains territoires. Et puis, il y aura aussi la livraison de masques au personnel hospitalier, aux médecins de ville et de campagne dans 25 départements les plus touchés. C'est dès aujourd'hui. Professeur Bouchot, on a vu des images notamment circuler sur les réseaux sociaux dans certaines régions de personnel soignant qui était dépourvu de ces matériaux de protection physique, les masques, les gants, les surchaussures. Comment c'est chez vous en Seine-Saint-Denis, à Bobigny?
Alors nous actuellement, on a une réserve qui pour l'immédiat est suffisante, mais je pousse mes collègues à une vraie vigilance parce que cette épidémie ne va pas durer 10 jours ou 15 jours, elle va durer, je ne peux pas vous dire combien de temps, mais probablement plusieurs semaines, et qu'il faut tenir le coup sur le long terme, et que si nos stocks actuels paraissent relativement importants, si on les utilise trop et de façon inappropriée, dans 3 semaines ou 4 semaines, alors qu'on sera encore vraisemblablement en plein dans l'épidémie, on n'aura plus ce matériel, et notamment les masques. Et donc ça, je pense qu'il faut être très vigilant et n'utiliser ces masques qu'à bon escient. Il n'est pas nécessaire, y compris pour les soignants, de se promener avec un masque en permanence, y compris même dans des services comme le nôtre où on a 100% de patients infectés par le coronavirus. Le masque a son utilité quand on entre dans la chambre et a fortiori quand on fait des soins aux patients. Et ça, c'est vrai pour le reste du matériel. Il faut se projeter sur du moyen terme et ne pas brûler nos cartouches de protection maintenant et se retrouver dans une période où on sera peut-être un petit peu plus en surchauffe, si je puis dire, sans le matériel qu'il faut, parce que ça va maximaliser l'anxiété du personnel, dont je trouve, je dis quand même au passage, en tout cas pour ce qui est de mon service, qu'ils sont assez remarquables de sérénité et de calme. Il n'y a pas de mouvement de panique. Ils font ce qu'il y a à faire. Et ça, je pense que c'est extrêmement rassurant pour la suite des choses.
Et quand on dit bravo, merci aux soignants, ce ne sont pas des vains mots en ce moment. Deux petites dernières questions qui parlent de votre spécialité, de la question de l'immunité, professeur Bouchaud. Quand on parle des personnes vulnérables, on peut parler aussi des personnes qui souffrent de maladies chroniques à cause d'un traitement qui aujourd'hui sont plus fragiles, personnes porteuses du VIH, traitées pour un cancer, maladies auto-immunes ou maladies inflammatoires. Elles aussi, ce sont des personnes vulnérables.
Oui, c'est-à-dire que toute personne qui a un vrai déficit immunitaire, tout à l'heure on parlait du diabète qui entraîne une petite altération de la réponse immunitaire, mais qui ne semble pas être un vrai facteur de risque. Là, vous parlez de personnes qui ont un vrai déficit immunitaire.
Oui.
Et par exemple, dans le cadre de l'infection par le VIH, on considère que les patients infectés par le VIH qui sont à risque, c'est ceux qui ont moins de 204.
Ça veut dire que les personnes qui ont une charge virale nulle, qui sont sous traitement antirétroviral, aujourd'hui, ils n'ont pas forcément davantage de risques face au coronavirus.
Exactement. Sur les données qu'on a jusqu'à présent, il n'y a aucune raison que ces patients-là s'inquiètent particulièrement. La question se pose pour ceux qui ont effectivement une infection qui n'est pas contrôlée et qui ont une immunité très basse.
Merci beaucoup, professeur Bouchaud, de nous avoir accordé de votre temps. Et à bientôt dans Priorité Santé. Cette question des traitements, elle s'est posée de façon très concrète ces derniers jours. On en a parlé tout à l'heure avec Stéphane Besançon. Quand on est diabétique, très important de poursuivre son traitement. Évidemment, quand on souffre du VIH, très important de ne jamais suspendre ce traitement. Et on va en parler avec vous alors qu'on aborde la dernière partie de cette émission. Professeur Francis Berenbaum, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Alors, parmi les traitements qui ont été cités par les autorités comme facteurs de potentielle aggravation de l'infection, on a entendu le ministre de la Santé, Olivier Véran, citer les anti-inflammatoires. Et cela vous a fait réagir, professeur Francis Berenbaum. Pourquoi ?
Parce que je pense qu'effectivement, c'est un message qui est très important à diffuser pour ce qui est des anti-inflammatoires. Et je pense que la réaction est liée également au fait qu'il faut bien différencier la prise d'anti-inflammatoires, à savoir l'ibuprofène par exemple, parce que c'est souvent en vente libre dans les pharmacies, ou le diclofénac, ou d'autres médicaments qu'on appelle donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, de bien les différencier de la cortisone. Mm-hmm. Parce que autant on peut délivrer le message qui est que en cas de fièvre ou de syndrome grippal, il faut absolument arrêter son traitement par anti-inflammatoire non stéroïdien. Autant lorsqu'on est sous cortisone, il faut faire très attention de ne pas l'arrêter brutalement. Mmh. C'est important parce que arrêter brutalement la cortisone, eh bien, ça peut aboutir à des faiblesses, des pathologies, des maladies. Et donc, il faut faire très attention. On ne peut pas arrêter un traitement par cortisone brutalement.
Professeur Francis Berenbaum, ça veut dire que pour la fièvre, on conseille plutôt le paracétamol, tout simplement.
Oui, exactement. Il y a en fait que très, très, très peu de pathologies, de maladies qui exigent la prise d'un anti-inflammatoire. Il y a quelques patients qui ont une spondylarthrite. C'est un type de rhumatisme inflammatoire pour lesquels vraiment l'anti-inflammatoire parfois est la seule façon de pouvoir être soulagé. Là, dans ces cas-là, bien évidemment, si on n'est pas malade, si on n'a pas de fièvre, si on n'a pas de syndrome grippal, eh bien, on peut le poursuivre. Pour toutes les autres pathologies, pour tous les autres problèmes, rien n'empêche d'essayer d'arrêter son anti-inflammatoire et voir ce qui se passe en prenant du paracétamol uniquement. Là, je parle pour des patients qui sont en bonne santé, hein, voir un peu comment ça se passe. Si on le prend pour une douleur, eh bien on voit un peu si avec le paracétamol, finalement, eh bien on arrive quand même à soulager le problème. Si c'est pas le cas, on peut reprendre son anti-inflammatoire.
Professeur Berenbaum, on rappelle quand même le dosage de ce fameux paracétamol qui est un ami et qui peut aussi être dangereux.
Oui, 3 grammes par jour maximum, en bien évidemment si on n'a pas d'allergie au paracétamol et si on n'a pas de problème au foie.
Voilà, donc c'est très important de le souligner à chaque fois.
C'est important de bien le souligner. Mais il faut bien différencier quand même la situation où on est malade et la situation où on est en bonne santé. Quand on est en bonne santé, on peut éventuellement poursuivre son anti-inflammatoire. On peut essayer de voir ce qui se passe si on le remplace par du paracétamol. Il n'y a pas de problème de voir d'arrêter le traitement et de voir un peu comment ça se passe. On peut aussi le poursuivre si vraiment on voit que ça soulage. Mais en revanche, quand on a de la fièvre, si on a un syndrome grippal, le message, arrêtez votre anti-inflammatoire.
Et
mais
vous,
n'arrêtez pas votre cortisone.
Et vous, aujourd'hui, comme soignant, vous avez aussi comme travail, c'est important de faire, on va dire, après toutes ces annonces et tous ces messages qui sont quand même très anxiogènes, on va dire une sorte de service après-vente, professeur Berenbaum, pour dire aux gens, il faut rester calme, il faut observer les consignes, mais il faut rester calme.
Ah oui, absolument. Après cette annonce qui était en fait un tweet d'Olivier Véran, notre ministre de la Santé, dimanche, tout à fait justifié, on a reçu, nous, rhumatologues, puisque ça fait partie quand même de nos médicaments de prédilection, on a reçu des dizaines de messages de nos patients pour
angoissé.
Nous dire, mais qu'est-ce qu'on fait Donc voilà, je pense qu'il y a des messages maintenant qui sont très très clairs. La Société française de rhumatologie va émettre aujourd'hui de nouvelles recommandations. On en avait déjà émises, mais là on va en émettre de nouvelles dans lesquelles on inclut la cortisone et les anti-inflammatoires non stéroïdiens, la conduite à tenir vis-à-vis de ces médicaments. Voilà, il suffit donc de suivre ce que je viens de dire, et puis il n'y a pas de problème. Donc voilà, effectivement, message rassurant, mais des messages exigeants et qui imposent voilà une certaine rigueur.
On va vous retrouver dans quelques instants. On va voir aussi du côté des personnes vulnérables, il y a eu des appels, des avertissements dans votre spécialité. Professeur Jean-Noël Fabiani, bonjour.
Bonjour Madame Paré.
Vous êtes chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Alors justement, ces patients aux antécédents cardiovasculaires classés parmi personnes à risque, est-ce que vous avez aussi senti une forte inquiétude gagner certaines des personnes que vous prenez en charge, professeur Fabiani?
Évidemment, tout le monde a peur de l'influence d'une infection sur son état cardiaque. Il faut dire qu'il y a peu d'organes qui sont autant liés dans la nature que le cœur et le poumon. C'est tellement vrai que dès que le cœur commence à ne pas bien aller, immédiatement ça se traduit par des signes pulmonaires, des essoufflements ou des œdèmes aigus du poumon. Donc le cœur retentit sur le poumon, mais le poumon retentit évidemment immédiatement sur le cœur pour deux raisons très évidentes. D'abord parce que les pressions vont changer à l'intérieur des poumons à partir du moment où il est infecté, d'une part, et d'autre part, parce que le poumon est quand même responsable de ce qu'on appelle l'hématose, c'est-à-dire l'oxygénation du sang, et que le cœur est un organe qui a besoin d'une oxygénation permanente par ses artères coronaires, qui est très importante. Alors bien entendu, si le cœur est sain, il va tout à fait bien réagir à toutes ces situations qui sont des situations, entre guillemets, dramatiques pour le poumon. Il va même très bien réagir. Mais si le cœur, par malheur, a des problèmes, soit qu'il soit insuffisant, c'est-à-dire qu'il ne se contracte pas très bien, ou moins bien qu'il ne devrait se contracter, ou bien si ses artères sont elles-mêmes rétrécies, eh bien, immédiatement, il va y avoir un retentissement sur le cœur. Et c'est cette pathologie que redoute, évidemment, entre autres, tous les réanimateurs, parce que le bloc entre guillemets cœur-poumon va se décompenser, risquer de se décompenser. Et à ce moment-là, bien sûr, l'issue fatale est possible.
Excusez-moi, professeur Fabiani, est-ce qu'il y a certaines pathologies cardiaques précisément, on va dire, qui seraient plus exposées que d'autres, ou de toute façon, quand on a un problème cardiaque, là, il faut être particulièrement vigilant, et plus que, même si tous les autres doivent aussi rester bien sûr éloignés et confinés, plus que jamais rester vigilants?
Alors, évidemment, je mets à part tout de suite les transplantés. Hein. Les transplantés cardiaques, ils ont un traitement anti-rejet qui suppose bien sûr une baisse de leur immunité. Alors ceux-là, bien entendu, ils sont tout à fait à part. Mais d'une façon générale, et le plus important, c'est tous les gens qui ont un certain degré d'insuffisance cardiaque, c'est-à-dire, grosso modo, pour être simple, des cœurs qui se contractent moins bien qu'ils ne pourraient se contracter dans une situation normale. Or, il y a énormément de gens en France qui ont des situations d'insuffisance cardiaque, qui sont traités pour cela, et il y a énormément de gens à partir d'un certain âge, dont le cœur se contracte un peu moins bien que qu'ils avaient 20 ans ou 30 ans. Donc c'est bien ça le problème, et c'est bien pour cela que, entre autres, l'âge est un facteur de risque.
Et justement, c'est un message et une question que je vous pose à tous les deux, professeur Berenbaum, toujours en ligne, et vous, professeur Fabiani. Gérer, bien sûr, ces spécialités très pointues, mais aussi gérer l'état d'esprit des patients. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de connaître quelque chose de complètement inédit dans votre pratique médicale, professeur Berenbaum?
J'espère que on est face à une situation qui est évidemment totalement unique, et j'ai des patients qui ont un rhumatisme inflammatoire ou une autre pathologie qui nécessite des traitements qui peuvent diminuer l'immunité, et sur un terrain psychologique un petit peu fragile, sont en train de décompenser. Mmh. Et ils ne décompensent pas du tout leur maladie rhumatologique, ils décompensent d'un point de vue psychiatrique, bouffé d'angoisse. Encore ce matin, si vous voulez, très très pratiquement, j'ai reçu un email d'un patient qui, de ce côté-là, est vraiment au bord de la rupture, pour lequel j'ai donné l'autorisation de partir rejoindre ses parents pour pouvoir justement retrouver peut-être un peu de sérénité. Mais si vous voulez, on va être tous confrontés par rapport à ces malades ayant une pathologie chronique à avoir ce risque de décompensation psychiatrique qui est absolument à ne pas négliger.
Et justement, j'arrête pas de renvoyer sur des émissions qu'on va faire, mais c'est encore une thématique que l'on abordera la semaine prochaine sur tout l'impact psychique, psychiatrique, et peut-être la prise en charge qu'il va falloir imaginer, avec peut-être des lignes téléphoniques dédiées pour tous ces patients qui ont une véritable souffrance et des crises et un risque de crise d'angoisse par rapport à cela. On vous remercie infiniment, hein, professeur Francis Berenbaum. On vous laisse retrouver vos patients. Même question à vous, professeur Fabiani. Question qui se pose: comment informer, comment traiter sans tomber dans la panique, et comment aussi prendre soin avec tout ce que ça comporte comme signification de ces patients, y compris dans cette dimension psychique?
Bah, écoutez, il est bien évident que quelqu'un qui va se faire opérer du cœur ou qui a été opéré du cœur, il est déjà suffisamment inquiet comme ça par son opération. Ça n'est pas la peine d'en rajouter une couche en lui disant qu'il y a des risques liés à l'épidémie de coronavirus. Donc ça, pour la prise en charge psychique, elle est claire. Il s'agit plutôt de rassurer en disant quand même qu'à partir du moment où les gens ont été opérés et bien opérés, ils ont une fonction cardiaque qui est revenue à la normale, et qu'a priori leur cœur, on a tout fait pour, est redevenu à la normale, sauf que quelques cas, ceux-là, eh bien, ils ne sont pas plus exposés au risque que quelqu'un, que d'autres. Mm-hmm. En revanche, soyons clairs quand même, il y a certains patients, soit parce qu'ils restent, je vous le disais tout à l'heure, insuffisants cardiaques, soit parce que leur maladie coronaire, eh bien, reste présente et que leur cœur n'est pas parfaitement vascularisé, où il faut les considérer comme des sujets à risque, et donc, évidemment, plus que d'autres, essayer de les mettre en confinement pour qu'ils ne soient pas en contact avec le virus, tout simplement.
Tout à l'heure, je posais la question au professeur Bouchot à l'hôpital Avicenne en Seine-Saint-Denis. Professeur Fabiani, du côté de la prise en charge aujourd'hui à l'hôpital où vous exercez, l'hôpital européen Georges Pompidou, à Paris, dans la capitale, quelle est la situation ?
Écoutez, je n'ai pas, ne fréquentant pas l'hôpital directement actuellement, je n'ai pas de renseignements, mais enfin, je pense que mon collègue Juvin a parlé très clairement sur toutes les ondes pour dire que la situation était encore parfaitement correcte, contenue, avec des possibilités d'ouverture. Mais dans le service de chirurgie cardiaque, par exemple, c'est vrai qu'on opère déjà beaucoup moins les malades qui peuvent être poussés, ça c'est sûr et certain, ne serait-ce que pour faire être capable d'assurer une des possibles, comment dire, prises en charge des cas extrêmement graves de la maladie, quand le poumon n'arrive même plus sous ventilation à être efficace, ça peut arriver. C'est-à-dire qu'on est sous ventilation artificielle, mais malgré ça, le poumon n'est plus efficace. Et dans ces cas-là, il y a une technique qui est la prise en charge d'un bloc en quelque sorte cœur-poumon artificiel, où on met les malades, ça s'appelle l'ECMO, c'est-à-dire extracorporeal circulation, de façon à pouvoir mettre les malades pendant un certain temps complètement en dehors du système ventilatoire et de prendre en charge leur ventilation par une machine. Et ça peut durer parfois une à deux semaines. Donc ce sont des techniques extrêmement rares, bien sûr, mais qui peuvent être appliquées dans des cas exceptionnels.
Alors on comprend bien qu'il y a une réorganisation. Tout à l'heure, je disais que vous étiez aussi professeur à l'Université Paris-Descartes. J'aimerais qu'on parle peut-être de cet aspect. Je ne sais pas si vous pouvez témoigner sur ce plan, professeur Fabiani, puisque l'actuelle riposte sanitaire, elle implique aussi directement les médecins en formation. Est-ce que vous avez des retours de ce côté-là ?
Ah, écoutez, c'est très simple. Les universités, maintenant, ça fait une semaine qu'il n'y a plus cours, qu'on a arrêté toute activité et qu'il n'y a plus du tout d'enseignement. Heureusement, beaucoup d'enseignements, dont celui dont je m'occupe, est un enseignement qui est distanciel, c'est-à-dire que toute une partie de l'enseignement est fait par voie Internet. Donc, à ce moment-là, on continue nos cours par Internet, on distribue cet enseignement par Internet en demandant et en priant les étudiants de ne plus se rendre à la faculté pour les raisons évidentes de distanciation et puis même de confinement.
Alors, on va terminer, professeur Fabiani, même si ce n'est pas directement votre spécialité, sur ces derniers messages de prévention qu'on répète jour après jour, mais on continuera toujours, le rappel des symptômes du coronavirus et des gestes barrières.
Alors, les symptômes, et bien entendu, au départ, ça se présente, il faut bien le dire, comme tout le monde l'a dit, ça se présente comme une grippe, c'est-à-dire qu'on a de la fièvre et on a mal à la gorge, grosso modo. Donc, c'est à partir de ce moment-là où, si la fièvre persiste, qu'il faut commencer à consulter, en particulier son médecin généraliste. Ça, c'est pour les signes d'appel, en quelque sorte. Les gestes barrières, je pense que tout le monde les connaît maintenant.
Oui, mais on répète toujours, parce que nous, on est né aussi en Afrique et on va le répéter toujours.
Répétons-les, il faut se laver les mains à peu près toutes les heures, avec du savon au moins. Il faudrait utiliser les solutés hydroalcooliques, mais en France, on a difficulté à s'en procurer dans les pharmacies de beaucoup d'endroits. Il faudrait, dès que quelqu'un est suspect d'infection, qu'il porte un masque. Là encore, les masques, on a dit, le président a dit qu'il allait en donner à tout le monde très rapidement, parce qu'actuellement, il n'y en a pas et pas suffisamment. Et puis, bien entendu, les grandes règles qui sont appliquées actuellement, c'est la distanciation, c'est-à-dire ne pas voir les gens à moins de 1m50, et d'autre part, le confinement, c'est-à-dire rester chez soi et ne plus sortir, parce que c'est le meilleur moyen d'éviter la circulation du virus.
Merci beaucoup, vous remercie beaucoup pour ces explications. Professeur Fabiani, chirurgien cardiovasculaire à l'hôpital européen Georges Pompidou, merci à tous nos invités. Un grand coup de chapeau, plus que jamais, à Sétoussa Maquet pour avoir réuni tous ces spécialistes dans l'urgence pour informer nos auditrices et nos auditeurs. Merci à toute l'équipe, Didier Bleu à la réalisation avec Didier Chérouze aujourd'hui, Juliette Brault, Ophélie Lassiane à l'écoute des auditeurs et sur nos espaces numériques. On se retrouve demain, on parlera bien sûr encore du coronavirus, pandémie. Nous irons à Téhéran, à Florence, à Bamako, à Séoul. On verra comment ça se passe là-bas. D'ici là, plus que jamais, portez-vous bien, restez chez vous et lavez-vous bien les mains. Les consignes, ça augmente de jour en jour.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou qui a désormais sa première banque, Sounou Bank Togo. Pour vous et partout au Togo, Sounou Bank vous accompagne. Sounou Bank, avec vous, à chaque étape.